Alors, bonjour à toutes et à tous. On va donc passer à l'animation d'une table ronde qui va être consacrée à la mise en œuvre des enseignements. Alors, afin d'être peut-être le plus pragmatique et le plus concret possible, nous avons considéré que c'était au travers d'un exemple que nous pourrions facilement illustrer la cohérence et la logique qui ont sous-tendu la rénovation de ce diplôme. Alors vous avez ici l'architecture du diplôme avec l'ensemble des domaines d'activité dans lesquels on a également fait figurer l'expression et culture en langue vivante étrangère et ce fameux CEJM, avec également les stages en milieu professionnel. Notre clé d'entrée sera par le haut, hein, au travers d'un exemple d'atelier de professionnalisation. Alors cet éclairage, il nous sera apporté entre autres par Céline Attali et Cyril Gall, professeurs, et il sera également complété par l'intervention de Jean-Bernard Ducroux, professeur. Nous avons donc choisi de vous présenter un exemple d'atelier de professionnalisation pour vous montrer cette cohérence qui peut et qui doit exister avec et entre l'ensemble de ces domaines d'activité du diplôme, d'une part, et surtout avec les stages en milieu professionnel, d'autre part. Donc avant toute chose, Céline, j'aimerais que tu puisses nous rappeler la philosophie même de ce qu'est un atelier de professionnalisation.
Alors, merci. En fait, les ateliers de professionnalisation ont été conçus prioritairement pour illustrer la transversalité des 6 blocs de compétences du référentiel, donc les 3 domaines d'activité, gestion de projet, optimisation des processus administratifs et contribution, collaboration à la gestion des ressources humaines, les langues vivantes, la culture économique, juridique et managériale, et la culture générale et l'expression. Dans le déroulement de ces ateliers de professionnalisation que l'on va avoir la possibilité d'illustrer, d'expliciter aux étudiants la transversalité et la complémentarité de tous les enseignements du référentiel du BTS, du BTS-SAM. Ce sont des espaces pédagogiques dédiés à la mobilisation, au renforcement, à l'acquisition aussi des différentes compétences du référentiel. Et ce sont des espaces où la liberté pédagogique est de mise. Il y aura, on le montrera, enfin Cyril le montrera à travers un exemple de module que l'on peut mener en atelier de professionnalisation. Donc les maîtres mots, c'est donc la co-animation avec le professeur d'économie et gestion et les autres membres de l'équipe pédagogique. Et l'autre aspect de l'atelier de professionnalisation qui est un peu beaucoup nouveau, c'est la globalisation du volume horaire pour l'ensemble de l'équipe pédagogique. Et on va vous montrer justement un exemple de découpage de ces ateliers de professionnalisation.
Merci Céline. Donc après nous avoir rappelé les objectifs, la transversalité et les modalités des ateliers de professionnalisation, Cyril va donc nous présenter un exemple concret autour d'un module intitulé « Le stage et le rapport aux organisations ».
Alors, le but de cet atelier de professionnalisation, on va vous présenter une grille. Nous, on a réfléchi à plusieurs modalités, plusieurs modules que vous pourrez éventuellement utiliser l'année prochaine. Rien de prescriptif, hein, ce sont des approches pour vous donner des exemples et essayer d'expliciter la philosophie un petit peu du principe. Donc, dans un premier module, on a souhaité vous proposer un module qu'on a intitulé dans l'atelier de professionnalisation « Recherche de stage ». Alors, pourquoi on a voulu commencer par ce premier module ? Parce que c'est un module qui permettra de faire la transition pré-bac-post-bac. C'est véritablement, dès l'arrivée au mois de septembre, l'occasion pour que nos étudiantes et nos étudiants prennent conscience de ce que l'on attend d'eux, notamment dans le cadre des compétences comportementales, c'est-à-dire des savoir-être, et notamment du fait qu'ils vont devoir intégrer un milieu professionnel, c'est-à-dire un stage qui pourra éventuellement, suivant les projets pédagogiques de chaque équipe, intervenir plus tôt dans l'année. Donc, dès le mois de septembre, on va proposer ce module-là. Et alors, ce module-là, il va faire intervenir les professeurs en charge des domaines d'activité, mais aussi les collègues en charge du CEJM, mais également de la culture générale et d'expression et des langues vivantes. Je prends un exemple simple. Dans un premier temps de ce module, il va falloir se poser la question de savoir, d'expliciter la notion de tenue professionnelle. Si on prend la CGE, culture générale et expression. Cette année, un des thèmes de débat qui devait être développé était le rapport au corps, corps naturel, corps artificiel. Et vous trouvez dans les mots-clés la mode, la représentation de soi, l'image, les savoir-être. Donc, sur ce module-là, le professeur en charge du DDA, des domaines d'activité, sera là, mais le collègue de CGE pourra lui également intervenir pour tracer avec l'élève le profil type de ce que l'on appelle une tenue professionnelle. C'est-à-dire que l'on puisse travailler sur la notion de vestiaire et que l'on puisse travailler véritablement sur cette notion de normes sociales, de langage non verbal. Et donc, voilà la co-animation entre le professeur d'économie gestion et le professeur de culture générale et d'expression. Dans un deuxième temps, il va falloir accompagner les jeunes gens à la création de supports pour être candidat. Donc ça peut être des capsules YouTube pour un CV en ligne, ça peut être un CV traditionnel, ça peut être la création de leur profil LinkedIn, etc. À partir de ces compétences-là à acquérir, il est évident que le collègue en charge de CEJM peut intervenir également en co-animation sur les questions du numérique, de l'identité numérique et du droit numérique. Nous verrons également que le collègue de LVE, de langue vivante étrangère, peut intervenir pour que nos étudiantes et nos étudiants puissent avoir des supports qui soient à la fois en français et en langue étrangère. Donc, deuxième axe de co-animation. Dans un troisième temps, il va falloir préparer, lors de cet atelier de professionnalisation, les étudiantes et les étudiants à passer des entretiens. Des entretiens, ils vont devoir développer un argumentaire où ils vont devoir être convaincants. Et la conviction, ça se travaille par l'argumentation. On peut faire intervenir en co-animation le professeur de culture générale et expression, le professeur de langue vivante étrangère, pour avoir la capacité à développer un argumentaire adapté à la cible. Donc des qualités langagières, pareil sur la notion de langage, qui est un axe essentiel de la CGE, en français et en langue étrangère. À ce moment-là, la co-animation peut donner lieu, un peu comme on le faisait en atelier métier, à la réalisation de jeux de rôle, de mise en activité pratique, qui permettent finalement à l'étudiant ou l'étudiante de visualiser un petit peu les compétences qui sont attendues. Donc dans la grille qu'on vous propose, à chaque fois, on vous propose ici les contenus que vous devez travailler avec les jeunes gens. C'est une proposition, hein, c'est rien de prescriptif. Par exemple, distinguer tenue professionnelle de l'uniforme, du déguisement, travailler sur l'histoire du costume, travailler sur le vestiaire de l'étudiant, et en co-animation, qui peut de manière pertinente intervenir et sur combien d'heures. Donc, pareil, si on continue sur ce... Hop. Est-ce qu'on peut... Excusez-moi. Hop. Si on continue, j'en étais à la préparation de l'entretien qui se trouve en haut. Pareil, on va savoir associer, on va avoir la communication orale, l'argumentation en français, langue étrangère. Et dernier point, sur la procédure de recherche de stage, on peut également faire intervenir des compétences liées au domaine d'activité 1 ou 2, avec notamment tous les outils d'organisation, la veille informationnelle, son automatisation pour la recherche de stage, tous les outils d'organisation et de planification qui sont propres au domaine d'activité numéro 2, un plan d'appel téléphonique, des outils d'organisation comme des plannings, des tableaux de suivi, des tableaux de répartition des tâches, etc. Là aussi, pareil, hein, le collègue de CEJM peut aussi intervenir en co-animation sur tout ce qui va être le thème 5, le marché du travail et l'environnement économique. Mutation du marché du travail, les attentes des organisations, les modalités aussi, également aujourd'hui, de rechercher de l'emploi et d'être candidat. Donc voilà, on a proposé ce premier module comme un module d'introduction, d'entrée au BTS SAM, pour véritablement montrer aux jeunes gens que les ateliers de professionnalisation, c'est d'abord une équipe enseignante qui intervient. C'est d'abord des savoirs transversaux. On ne cloisonne pas les matières. C'est une compétence beaucoup plus globale que l'on attend d'eux. Et puis, bien entendu, c'est une mise en activité autour de compétences pratiques, que ce soit en langue vivante étrangère pour l'expression, l'argumentation, ou que ce soit dans des domaines d'activité, comme par exemple la réalisation d'une grille d'analyse d'auto-évaluation, un CV, une lettre de motivation, etc. Voilà pour ce premier module, cette présentation... d'un exemple.
Merci Cyril, parce qu'en fin de compte, là, Cyril nous a montré un petit peu l'articulation qui existe entre toutes les colonnes de ce diplôme, j'allais dire, l'architecture. Il nous reste néanmoins à établir un lien avec les stages en milieu professionnel. Et Céline, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, s'il te plaît ?
Oui, très...
Le micro.
Il y a simplement deux nouveautés.
La première nouveauté, c'est la durée, puisque la durée minimale du stage est portée à 14 semaines, avec toujours une possibilité de prolonger de 2 semaines, sur une période éventuellement de congé scolaire. Donc ça, c'est la première nouveauté. Et la deuxième nouveauté, c'est une préconisation qui est inscrite dans le référentiel et qui prévoit la possibilité, même donc la chaude recommandation, d'organiser un premier stage de 2 à 4 semaines avant la fin du premier semestre du BTS. Ce dispositif d'avancement d'avancement de la période d'une première période de stage en premier semestre a pour objectif de faire en sorte que l'étudiant intègre très rapidement dans son cursus une expérience professionnelle. Et finalement, ce n'est pas tout à fait une nouveauté parce que c'était aussi mené de façon expérimentale dans certains établissements qui avançaient une première période de stage. Et il s'avère que c'est une possibilité d'éviter un décrochage scolaire précoce. Voilà. Donc ça, ce sont les deux nouveautés. Pour le reste, je vais aller très vite parce que c'est inchangé. Donc évidemment, obligation d'organiser au moins une période de stage dans un milieu, dans un environnement international, ou voire même donc à l'étranger. Et puis, ça a été dit aussi en début de matinée, tout type d'organisation est possible. Donc ONG, entreprises, collectivités territoriales, etc., etc. Et l'objectif, le stage sera bien entendu la possibilité pour l'étudiant de constituer un projet. Alors on ne va peut-être pas utiliser le terme dossier, mais donc un projet qu'il présentera, un ou plusieurs projets qu'il présentera à l'épreuve 5. Et puis également, pourquoi pas commencer à construire son propre parcours de formation en choisissant un secteur d'activité à son goût pour ensuite continuer dans ce secteur d'activité.
Voilà. Merci. Je pense qu'au travers de l'exemple qui vient de nous être donné, j'aimerais bien revenir sur un élément en particulier. C'est peut-être l'articulation entre les enseignements généraux et les enseignements professionnels, et peut-être sur le point spécifique qui vous a interrogé déjà en début de matinée, c'est l'articulation entre CEJM et CEJM appliqué. Alors pour cela, Jean-Bernard, si vous voulez bien nous faire bénéficier de votre témoignage.
Voilà. Alors, ça sera assez bref, mais parce que je vais avoir que 5 minutes à peu près. Donc, je vous donne rendez-vous déjà le 21 mars, je crois, puisque un séminaire national sera consacré à l'enseignement de CEJM, le 21 mars, sur lequel on fera le point. Je détaillerai ce que je vais synthétiser en 5 minutes. Alors, sur cet enseignement de CEJM, alors, on est à la fois sur quelque chose qu'on connaît, puisque dans CEJM, on a économique, juridique et managérial, donc on n'arrive pas en terre inconnue. Et en même temps, c'est un enseignement qui est quand même nouveau, puisqu'on parle de culture et que l'enseignement n'est pas culture économique, virgule culture juridique et culture managériale. Donc on est sur une approche globale et donc on n'est pas sur une juxtaposition des enseignements qu'on avait auparavant d'économie, de droit et de management. Voilà. Ce qui explique aussi pourquoi cette culture économique, juridique et managériale s'articule entre la formation générale, on le retrouve dans la formation générale, mais on le retrouve également dans les ateliers de professionnalisation. Donc on a une articulation entre les deux parce qu'il s'agit vraiment d'une culture. Alors le contenu du programme, le préambule du programme l'indique bien, lorsqu'on parle d'intégrer les dimensions économiques, lorsqu'on parle de s'approprier une culture, on voit bien qu'il s'agit, au-delà d'enseignement de juxtaposer, de donner une culture commune en matière de savoir économique, juridique et managérial. Voilà. Alors, toute la difficulté, mais on y reviendra, je pense, au mois de mars, c'est comment on articule des enseignements qui, jusqu'à présent, n'étaient pas systématiquement articulés. Alors, le management pouvait l'être avec les spécialités, l'économie avec le droit, mais on n'avait pas systématiquement une articulation économique, juridique et managériale avec l'enseignement professionnel. Donc toute la difficulté, ça va être celle-là. Ça va être comment on aborde une culture qui soit à la fois tridimensionnelle. Bon. Alors, on le verra au mois de mars, mais ça passera nécessairement par des mises en situation. Hein. Et peut-être, si encore ils existaient, mais l'abandon de cours qui soient successivement économiques, juridiques et managériales. Donc toute la difficulté, ça va être celle-là. On vous montrera peut-être comment on peut amener ces trois dimensions par un cas, hein, qui sera un cas qui permettra d'aborder ces trois dimensions, ou comment le cas peut être un cas de synthèse qui permettra de faire la synthèse des trois dimensions qui seront abordées peut-être de manière un peu plus autonome. Donc toujours est-il que cet enseignement, et c'est sa particularité, c'est qu'il est fondé quand même sur les enseignements, enfin sur des disciplines, des matières qui sont quand même autonomes. Si on lit le programme attentivement, on voit bien qu'il y a des savoirs, des savoir-faire aussi, des méthodes, hein, des outils qui sont propres à chacune des disciplines. Et d'ailleurs, les questions qui sont posées dans le programme sont bien des questions qui sont juridiques ou économiques ou managériales. Mais ces questions-là, ces trois dimensions-là, sont fédérées au sein d'un thème, hein. Donc, on peut partir du thème, hein, mais le thème articule des questions qui sont économiques, juridiques et managériales. Toute la difficulté va être à la fois de conserver cette autonomie des trois champs, mais en même temps de montrer que ces trois champs, les savoirs s'articulent. Alors, l'idée, ça sera de présenter, par exemple, des schémas notionnels qui permettent de voir comment on peut articuler des notions entre elles, même si elles gardent leur autonomie. Alors, je pense, par exemple, au thème numéro 1, où on parle d'externalité et où on peut relier en management avec la RSE, par exemple, mais les agents économiques avec les parties prenantes. Et d'autres choses. Donc, toute la difficulté, ça va être celle-là. Comment ne pas mélanger ces notions ? Mais comment montrer qu'elles sont autonomes, hein, une partie prenante, c'est pas un agent économique, en tout cas pas nécessairement. Donc toute cette approche-là de conserver l'indépendance des champs, mais de montrer en même temps comment ils s'articulent. Cette articulation, mais j'insiste peut-être beaucoup, passera nécessairement, obligatoirement, par les mises en situation. On voit mal comment on pourrait aborder les thèmes en laissant l'étudiant se débrouiller avec une approche économique, juridique et managériale. Et une fois qu'on aura fait ce travail-là, ça sera en charge pour lui d'articuler les trois. Non, on ne peut pas l'envisager comme ça. Donc il faut d'ores et déjà réfléchir à cette manière d'articuler des champs qui sont autonomes et qui disposent chacun d'un vocabulaire spécifique. C'est vraiment une difficulté. Mais il est prévu au mois de mars de présenter des séquences et on vous montrera à travers des exemples de séquences comment on peut à la fois conserver cette autonomie, mais en même temps montrer qu'il s'agit d'une culture commune, hein, culture économique, juridique et managériale. C'est vraiment une sacrée difficulté, mais bon, on pense la relever. Voilà.
Merci. Alors, on ne pouvait pas concevoir quand même l'animation d'une table ronde sur la mise en œuvre des enseignements sans aborder la question de la grille horaire et de la répartition des services. Donc, à ce titre, Cyril va aborder ce point qui, aujourd'hui, vous interroge. Et il va nous rappeler quelques principes qu'il est souhaitable de respecter.
Alors, à propos de cette grille horaire, bien entendu, dans le document d'accompagnement qui sera très bientôt porté à votre connaissance, publié pour vous permettre de préparer les répartitions de l'année prochaine, nous vous proposerons des scénarios qui sont là encore absolument pas prescriptifs, mais démonstratifs pour vous donner des idées. Cela étant, on voulait rappeler aujourd'hui les grands principes du référentiel rénové et notamment les grands principes qui ont guidé finalement la grille horaire. Donc, sur ces grands principes, sur ce grand principe, je peux déjà vous les énoncer comme ça. Un domaine d'activité, un enseignant. On a décidé qu'un enseignant prenait en responsabilité un domaine d'activité. Éviter finalement de séquencer, segmenter un domaine d'activité entre plusieurs intervenants. On préconise que le choix des services ne conduise pas à une spécialisation des enseignants. C'est-à-dire un enseignant qui prendrait que l'ARH, par exemple, à part, et puis qui serait hyper spécialisé. Ou alors quelqu'un qui serait sur le CEJM et qui ne prendrait pas part ensuite à d'autres activités des domaines dits professionnels. Donc, on préconise également, mais c'est une préconisation, bien entendu, d'organiser le suivi de la classe de première année, c'est-à-dire de fonctionner sur un cycle T1, c'est-à-dire de mener une cohorte à l'examen, finalement, à la certification. On propose également que les enseignants de CEJM participent à l'animation, bien entendu, des ateliers de professionnalisation, puisque vous l'avez bien compris, il y a 4 heures pour CEJM, mais il y a CEJM appliqué. C'est-à-dire que l'enseignant qui est sur CEJM doit absolument participer, vous l'avez vu tout à l'heure, aux ateliers de professionnalisation sur celui qu'on vous a présenté, pour que finalement, l'enseignement qu'il a proposé aux étudiantes et étudiants prenne du sens dans une contextualisation et dans une mise en pratique. C'est-à-dire que si vous faites en atelier de professionnalisation un diagnostic stratégique, si par ailleurs il y a aussi besoin d'avoir un apport juridique, de la veille juridique, il est évident que le collègue en charge de la CEJM soit intervenant aux ateliers de professionnalisation. C'est le sens de la CEJM appliquée. C'est véritablement cet ancrage dans la contextualisation et dans cette démarche métier. Bien entendu, on fait une autre préconisation qui est que l'enseignant de CEJM prenne en charge un domaine d'activité pour éviter ce que l'on a dit précédemment, la spécialisation d'un enseignant ou des enseignants sur véritablement qu'un seul des axes, puisqu'un des maîtres mots du référentiel rénové va être transversalité et interdisciplinarité. On veut véritablement que les étudiantes et les étudiantes créent du sens à partir de tout ce qu'on leur donne et qui développent ainsi la culture métier qu'on attend d'eux et les compétences qui seront ensuite certifiées à l'examen. Et dernière préconisation, concernant les ateliers de professionnalisation qui auront lieu sur 6 heures élèves, de dédier une journée pour ces ateliers, donc, en prévoyant une barrette de co-animation de 4 heures où interviendraient les enseignants de CGE et de langue vivante étrangère. Bon, c'est un petit peu ce que nous faisons actuellement sur les ateliers métiers où nous avons également des barrettes et où interviennent les profs de langue d'une semaine à l'autre suivant ce qui a été prévu à la progression. Donc voilà cette préconisation d'une journée dédiée avec une barrette clairement identifiée de co-animation d'une demi-journée de 4 heures. Voilà.
Merci Cyril. Donc toujours en lien avec la grille horaire et la répartition des services, je voulais également attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas oublier que vous avez la possibilité de mettre en place un module optionnel en deuxième année, module dont Cyril va brièvement nous parler.
Alors sur le module optionnel de parcours individualisé, nous avons voulu garder cette spécificité qui est celle du BTS actuel, de la section actuelle, c'est-à-dire de proposer une coloration, un module de spécialisation. Nous avons vraiment voulu garder cette logique-là et donc nous avons prévu la possibilité de aux équipes enseignantes de proposer un module optionnel de parcours individualisé, c'est-à-dire une nouvelle mouture de ce que l'on appelle aujourd'hui le module de spécialisation. Alors, pourquoi module optionnel de parcours individualisé ? On a vraiment voulu que sur ces heures dédiées à ce module de spécialisation, on favorise l'acquisition d'une culture de la formation tout au long de la vie. Alors je m'explique, on veut qu'il y ait un mix de modalités sur les supports, les modalités pédagogiques qui seront proposées dans le cadre de ce MOPI. C'est-à-dire par exemple l'accès à des formations en distanciel parce qu'il faut véritablement que nos étudiantes et nos étudiants acquièrent cette culture de la formation tout au long de la vie et qu'ils soient aussi partie prenante, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'aller vers des ressources. Donc nous pouvons également voir sur cette formation tout au long de la vie que le module ensuite en classe sera une forme d'accompagnement, de remédiation par rapport à ces parcours à distance. Nous voulons également que le MOPI soit l'occasion pour les jeunes gens de préparer leur poursuite d'études. Donc le MOPI intervient en deuxième année, ce qui veut dire que les jeunes gens ont eu déjà une année de formation, un stage, et qui peuvent déjà se projeter sur l'orientation à plus 3. Le module optionnel de parcours individualisé peut clairement être ancré dans le bassin de formation, et notamment dans le bassin des IUP qui proposent des licences professionnelles. Donc à ce moment-là, c'est en cela que ce module est réellement individualisé parce qu'on peut proposer, notamment avec des modalités de formation à distance ou en partenariat avec les IUT, des modalités de formation ici adaptées au parcours, au projet professionnel ou au projet de poursuite d'études des étudiantes et des étudiants. Pareil sur le projet professionnel, il est possible qu'après un stage, un étudiant ou une étudiante ait envie véritablement de poursuivre sur un champ. Un champ, par exemple, de la communication commerciale, on en parlait tout à l'heure, puisque des entreprises l'avaient évoqué. Et à ce moment-là, ce sera l'occasion de lui donner de cette teinte qui va venir enrichir son CV. Et puis, bien sûr, on propose également que le module optionnel de parcours individualisé soit la possibilité pour les étudiantes et les étudiants de préparer des certifications. Je vais vous en présenter ensuite, mais on peut penser aussi à des certifications de langue. Ce qui veut dire que sur le module optionnel, peut intervenir également des enseignants de langue vivante étrangère, par exemple. Si on peut revenir juste avant, voilà. L'idée, c'est simplement de se dire que on a en deuxième année un ou plusieurs enseignants qui vont intervenir à partir du besoin exprimé par les étudiants dans le cadre d'un bassin économique et d'un bassin de formation, donc un ancrage clairement à identifier, un projet qui soit monté en équipe, bien entendu, et qui peut avoir plusieurs axes. Jusqu'à maintenant, le module de spécialisation, il reposait beaucoup sur la spécialisation d'un enseignant qui le proposait à toute une classe. Là, en ayant recours notamment à des modules de formation à distance avec l'enseignant en remédiateur et puis finalement en accompagnateur de cette montée en compétences, on va pouvoir proposer plusieurs axes. Et puis bien entendu, il faut voir la pluralité, la flexibilité des ressources, donc les MOOC, les partenariats avec les licences pro, les IUP du bassin, des ressources partagées avec d'autres établissements, des parcours aussi avec des entreprises partenaires qui peuvent avoir des académies des métiers, des modules de formation qui peuvent nous intéresser. Je vous ai proposé, par ailleurs, l'exemple type de ce que vous pouvez développer. On peut avoir dans un bassin, par exemple, et Monique Jani, qui va intervenir tout à l'heure, a beaucoup insisté là-dessus, sur la démarche entrepreneuriale. On peut avoir aussi des jeunes gens qui, sur des formations à distance, aient envie de monter en compétences sur des thématiques de l'entrepreneuriat. Parce qu'il se peut, dans un bassin, celui où j'enseigne moi notamment, il y a une licence entrepreneuriat qui est très dynamique, qui recrute de nos BTS et qui aimerait justement que l'on les prépare en amont. Autre possibilité que l'on peut avoir, c'est investiguer dans ce MOPI les thématiques du management de l'innovation, par exemple. Et donc se coller à ce que propose la Fédération de l'Université numérique. Un troisième élément que j'ai exploré, c'est tout ce qui propose la spécialisation dans le secteur de la fonction publique territoriale. Suivant les bassins où vous êtes, les régions, les départements, il se peut que les étudiantes et les étudiants que vous ayez en classe s'orientent vers des stages dans des organisations publiques, puissent avoir envie de refaire leur spécialité. Il y a par exemple à Saint-Quentin en Yvelines une licence pro sur le secteur public, le management des collectivités territoriales, qui recrute également nos BTS. Ça peut être l'occasion pour nos étudiantes et nos étudiants d'enrichir leur dossier et d'avoir un premier contact sur cette poursuite d'études. Ça peut être aussi également sur la dernière diapositive de proposer, formation tout au long de la vie. Sur la dernière diapositive, le module optionnel peut être également la possibilité d'acquérir des certifications complémentaires. On a pris ici l'exemple de PIX qui permet d'avoir une certification sur le numérique qui permettra à nos étudiantes et à nos étudiants de proposer finalement dans leur CV une certification qui va, vous savez, quand on met compétences informatiques, etc., qui va permettre de donner un indicateur aux recruteurs. Alors, deux axes, c'est-à-dire là ici, l'enseignant dans le cadre du MOPI sera dans l'accompagnement, la remédiation, le suivi de cette évolution sur la compétence. Et dernier point, ces modules complémentaires, ça peut être dans le numérique, ça peut être dans les langues vivantes étrangères, stoïque, bulate, etc. Ça peut être sur des compétences langagières. On pense notamment aux certifications sur la pratique du français, etc., sur lesquelles véritablement nous pouvons aussi intervenir avec un collègue de CGE, selon les modalités que choisiront les équipes. Voilà pour ce module optionnel et ses grands principes. Merci.
Voilà, je voulais remercier en votre nom l'ensemble des intervenants à cette table ronde, en espérant que ça a soulevé, ou en tout cas permis de répondre à certaines de vos interrogations. Merci à tous.